parole du roi Lemuel. Sentence par lesquelles sa mère l'inspire. Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Ce n'est point au roi Lemuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, il n'oublie la loi et ne méconnaît les droits de tous les malheureux. Donner des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a de l'amertume dans l'âme. Qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Et c'est toujours la mère de Lemuel qui enseigne, de sorte que le portrait de la femme vertueuse n'a pas été fait par un homme, mais par une femme, par une mère. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle feint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisi. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises, elle les vend et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Elle ouvre sa bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent. Elle a dit, bienheureuse. Son mari se lève, elle lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes les œuvres la louent. Nous voulons invoquer la grâce du Seigneur. Ô Dieu notre Père, dans cette dernière soirée, nous voudrions que ton esprit ouvre une fois encore nos yeux et nos cœurs et que nous puissions recevoir dans la simplicité, dans la paix et dans la joie aussi ces derniers enseignements que tu veux nous transmettre par cette voix que tu as inspirée et qui nous montre que quand tu veux parler au monde, tu ne tiens pas compte du sexe, tu emploies qui tu veux, et nous te bénissons de nous montrer dans la fin de ce livre des Proverbes que tu as employé pour terminer ce livre, une femme, une de tes servantes fidèles. Nous te louons pour la place que tu lui donnes pour clore ce livre, pour ses enseignements, alors que Salomon, que tu as béni dès sa jeunesse, n'a pas marché d'une façon fidèle à tout ce qu'il connaissait. Seigneur Jésus, rappelle-nous ce qui est utile pour nous ce soir, afin que tous ces exemples que nous avons vus nous restent et que nous n'ayons pas simplement passé 2 semaines à meubler notre intelligence, notre mémoire de vérités intéressantes, mais que tu aies mis en nous des motifs d'agir et de marcher selon les enseignements que tu nous as donné. Ta parole est la vérité. Seigneur, sanctifie-nous ce soir par ta vérité. Ô Jésus, amen. Si vous deviez donner, et nous vous l'avons demandé, un titre à ce chapitre, un titre correspondant à un portrait du Seigneur, quel nom donneriez-vous? Je pense que c'est très clair. Si au chapitre 30, nous avons donné le nom du Fils, ici nous donnons le nom de l'époux, le mari. Le mari qui a une femme vertueuse. Et qui serait cette femme vertueuse? L'Église. Et là, vous avez alors tout un champ pour vous édifier. Si vous pensez que cette femme vertueuse représente l'épouse du Christ, l'Église du Seigneur, eh bien, vous aurez un sujet de méditation pour vous et je vous laisse faire vous-même cette étude. Prenons maintenant avec un peu plus de détails connaissance de ces passages que nous venons de lire. Voici les conseils que Lémuel, roi de Massa, a reçus de sa mère. Ça, c'est la version en français courante. ou les paroles du roi Lemuel, mais ce sont des sentences qu'il a reçues de sa mère. C'est sa mère qui a eu le privilège de l'instruire. Et qu'est-ce que cette femme, peu importe pour nous de savoir qui était Lemuel, on discute à n'en plus finir sur ce que pouvait être Lemuel. Les uns pensent que c'était le petit nom que Bathsheba donnait à Salomon, mais tout cela, nous n'en avons aucune confirmation. C'est une femme pieuse. C'est une femme qui nous révèle ce qui était dans son cœur pour son enfant. C'est une femme qui a désiré un enfant. Et ayant eu un enfant, elle a compris ses responsabilités. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'instruisit. Mes sœurs, si vous avez des enfants, ne laissez pas à d'autres le soin de les instruire. Commencez vous-même l'instruction de vos enfants. C'est à Dieu que d'autres personnes, oui, viennent vous aider dans cette instruction, mais ne remettez pas l'instruction de vos enfants à quelqu'un d'autre. C'est vous, mère, qui devez instruire votre enfant. Votre enfant doit recevoir sa première instruction des lèvres de sa mère. Mais cela veut dire que si vous êtes mère, vous êtes une femme pieuse, une femme qui a à cœur le bien de l'enfant que Dieu lui a donné. Et cette femme est très sérieuse. Elle sent sa responsabilité et elle se demande, mais qu'est-ce que je vais dire à mon fils? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Que te dirais-je, mon fils? Il me semble que ce sont comme les paroles d'un mourant quand on entourait le lit d'un bien-aimé qui allait partir. Il avait des paroles à nous transmettre, une dernière volonté et qu'il nous faisait connaître. Autrefois, en tout cas, les lits de mort étaient extrêmement édifiants. On rassemblait toute la famille et le père, avant de s'en aller, bénissait ses enfants et exprimait à chacun de ses enfants une parole que l'enfant gardait dans son cœur. Eh bien, que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je? Vous voyez, cette femme s'arrête deux fois pour se poser cette question. Mais qu'est-ce que je dis à mon enfant? Qu'est-ce que j'ai vraiment à lui dire? Elle ne va pas parler d'une façon légère. C'est une parole qu'elle lui donnera. C'est une parole qui vient du plus profond de son être. Car elle appelle son fils le fils de ses entrailles. Le fils de ses entrailles. C'est dans nos entrailles qu'on ressent toutes les émotions. Eh bien, c'est toujours le fils de ses entrailles. C'est ce fils qu'elle a porté. C'est comme s'il était toujours en elle. Certes, il est né, certes, il a grandi, mais pour une mère, son fils, il est toujours en elle. Une mère, elle porte toujours son enfant. Quand elle est une mère qui a la crainte du Seigneur, la crainte de l'Éternel. Fils de mes entrailles, ça dit quelque chose. Puis, elle revient encore. Que te dirais-je, mon fils? Objet de mes vœux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un accident, cet enfant? C'est un enfant désiré. C'est un enfant qui a été demandé au Seigneur. Comme qui? Comme Samuel. Comme Anne. C'est une femme, cette mère de Lemuel, qui ressemble beaucoup à Anne. Elle a demandé un fils. Elle a fait un vœu que si ce fils lui était donné, eh bien, elle l'instruirait pour le Seigneur. Et voyez-vous, moi, je ne conçois pas qu'un foyer se crée sans qu'il y ait, si l'un et l'autre sont des chrétiens, sans qu'il y ait cet ardent désir. Si Dieu nous donne des enfants, nous les lui avons demandés, mais c'est pour qu'ils lui soient consacré pour qu'il lui appartienne. Nous, c'est pourquoi quand nous recevons un enfant, nous ne lui donnons pas n'importe quel nom, mais nous lui donnons un nom qui a un sens, qui a une signification et qui correspond à un certain état d'âme, comme aussi à certaines circonstances peut-être que nous traversons. Et l'enfant le sait. Il sait pourquoi on lui a donné ce nom. Ce n'est pas simplement parce que grand-père s'appelait de ce nom-là, ou la grand-mère, ou une tante, ou une cousine, ou enfin une vedette qu'on aimait, alors on lui donne le même nom. Non, il y a une pensée spirituelle. Que te dirais-je, objet de mes voeux. Alors la première pensée qu'elle a, ne livre pas ta vigueur aux femmes. Vous voyez, Salomon a fait cela. Salomon a livré sa vigueur aux femmes. Lui qui a été employé pour écrire la plupart de ses proverbes, ce n'est pas lui qui nous donne la fin de ce livre. Le Seigneur a réservé à une mère de nous donner la conclusion du livre. Et ce que cette femme dit, c'est le contraire de ce que Salomon a vécu. Ne donne point ta force aux femmes, ta vigueur aux femmes, et tes voix à celles qui perdent les rois. Et qu'est-ce qu'a perdu le roi Salomon? Ce sont les femmes. Alors vous voyez dans quelle méditation cela vous amène. Voilà ce qu'une mère dit à son fils, et à son fils qui est un roi. Puis une deuxième exhortation. Ce n'est point au roi, Lémuel, ce n'est point au roi de boire du vin. Elle ne le condamne pas à l'abstinence totale, mais quand il est dit boire du vin, c'est en abuser. Boire du vin, c'est s'enivrer ici. Parce que à bien d'autres endroits, il est parlé qu'un homme peut boire du vin, mais ce qu'il ne peut pas faire, c'est s'enivrer. Et un roi doit avoir toujours l'esprit clair. Ce n'est point au prince non plus de rechercher les liqueurs fortes, ces liqueurs qui nous mettent dans un certain état, dans une certaine euphorie, mais qui peuvent fausser complètement notre jugement. Pourquoi ? C'est verset 5. De peur qu'en buvant, il n'oublie la loi. Et c'est presque toujours ce qui arrive. On oublie la loi qu'on devrait toujours avoir en mémoire. Et ne méconnaisse les droits de tous les malheureux. Voyez, cette femme, elle pense à la responsabilité qu'aura son fils et elle veut qu'il soit toujours prêt pour les besoins des malheureux. En revanche, au verset 6, elle dira à qui l'on peut donner des liqueurs fortes. C'est à qui ? À celui qui périt. Et vous savez que la coutume à Jérusalem, et Jésus a connu aussi cette coutume, les condamnés à mort, on leur faisait boire un certain mélange de vin mêlé de ciel pour les aider à mourir et ôter un peu de leur douleur. C'est ce que les femmes pieuses de Jérusalem préparaient pour les condamner à mort. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait quand on lui a offert ce breuvage? Il n'en a pas voulu. Parce qu'il voulait tout souffrir. Il n'a pas voulu avoir un genre de narcotique. Il a enduré la croix, la mort ignominieuse de la croix. Mais là, la mère de Lémuel montre que l'on peut donner du vin ou des boissons fortes à quelqu'un qui a de l'amertume dans l'âme et qui a besoin d'un cordial pour oublier un peu sa pauvreté et sa misère, ses jours de peine. Verset 8. Ouvre sa bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. On dirait que c'est cette femme qui a créé les droits de l'homme. Déjà à ce moment-là, elle montrait de quoi nous devrions être occupés de ceux qui souffrent des injustices. C'est pour eux que nous devons ouvrir la bouche. C'est eux que nous devons juger avec justice. Et qui devons-nous défendre? Les malheureux et les indigents. Parle en faveur, en leur faveur. Gouverne avec justice. Défends la cause des pauvres et des malheureux. Et vous avez maintenant ce fameux portrait de la femme vertueuse. Je ne dirai que quelques mots sur elle. C'est tellement clair que vous n'avez qu'à méditer vous-même. Une femme vertueuse, qui peut la trouver? Que donnez-vous comme réponse? Pas à moi à vous donner la réponse. Qui peut donner une femme vertueuse? C'est le Seigneur. Qui a donné la première femme à l'homme? C'est Dieu. C'est lui qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui lui correspond. Et la femme que Dieu avait créée devait être cette aide qui devait assister Adam tous les jours de sa vie. Car quand Adam a cherché un être qui lui correspondait, quand il a cherché lui-même, est-ce qu'il a trouvé? Non. Adam n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé d'aide qui lui corresponde. Et si c'est vous qui vous mettez à la recherche, vous ne trouverez pas. Vous ne trouverez pas l'aide vraiment qui vous correspond dans tous les domaines, qui vous permettra de connaître vraiment une vraie plénitude dans votre foyer, tant dans la communion spirituelle que la communion de l'âme, la communion psychique, que aussi dans l'unité, dans la fusion des corps, puisque dans le mariage, on n'est plus seul, mais une seule chair. C'est une affaire que l'on remet entre les mains du Seigneur. Et qu'est-ce que c'est qu'une femme vertueuse? C'est une femme vaillante. La vertu, littéralement, c'est une force. Alors, une femme vertueuse, c'est une femme forte. Une femme forte, ça ne veut pas dire une femme grosse. Hein. Une femme forte qui a de l'énergie, qui a de la vigueur. Son prix a plus de valeur que les perles ou que les rubis. Elle est mise sur le même pied que qui, que quoi, cette femme vertueuse, puisqu'il est dit que sa valeur a autant de valeur que les perles. Qu'est-ce qu'on a vu avant? Qu'est-ce qui a autant de valeur que les perles, ou plus de valeur que les perles? La sagesse. De sorte que cette femme vertueuse a autant de valeur que la sagesse. Donc, vous voyez qu'il doit y avoir une correspondance merveilleuse. Si nous appartenons à Christ, eh bien, nous devons lui ressembler. Il doit y avoir correspondance. Le cœur de son mari se confie en elle. Le cœur, c'est-à-dire le centre de notre vie. Un mari doit avoir confiance en sa femme. Et les produits ne lui feront pas défaut. Qu'est-ce que ça veut dire? Son mari place sa confiance en elle. Elle ne lui gaspille pas son bien. C'est ça qui est littéral. Qu'est-ce que c'est que cette femme? C'est une femme gaspilleuse? Non. Un des premiers caractères, elle est économe. Un des traits d'une femme vertueuse, c'est qu'elle est économe. Elle n'est pas gaspilleuse. Si vous voulez avoir les traits de la femme vertueuse, souvenez-vous qu'un des premiers traits, c'est être économe. Puis, continuez. Qu'est-ce que vous trouvez? Elle lui fait du bien. Alors, qu'est-ce qu'elle est? Elle est bonne. Et non du mal. Donc, elle sait la différence qu'il y a entre le bien et le mal. Et ce qu'elle fait à son mari, c'est du bien. Quand? La première année de mariage. Tous les jours de sa vie. Tous les jours de sa vie. Mais il faut être renouvelé pour cela. Tous les jours de sa vie. Vous voulez vous marier? Un jour? Si vous voulez vous marier, dites-vous que c'est pour tous les jours de votre vie. C'est un engagement que vous prenez pour tous les jours de votre vie. C'est ce qu'on dit dans le mariage. Et propre. Tous les jours de votre vie. Il faut que ce soit le Seigneur qui soit entre nous, parce que sans ça, c'est pas possible. Verset 13. Elle se procure de la laine et du lin. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait avec la laine et du lin? Des vêtements. La laine, le lin en Orient, c'est une étoffe qui ne transpire pas. On ne transpire pas dans le lin. C'est pourquoi les sacrificateurs devaient être vêtus de lin. Parce que avec le lin, on ne transpire pas. Et puis la laine, ça donne la chaleur. Hein? Ça donne la chaleur. Parce qu'il faut bien vous dire qu'en Orient, qu'est-ce qu'il y avait comme moyen de chauffage? Rien. C'était des étoffes. C'est pourquoi vous comprendrez que la maison est remplie de tapis qui réchauffent, qui maintient un peu de chaleur en Orient. Dans ce temps-là, c'était les tapis. Elle travaille donc d'une main joyeuse. Elle travaille. Voilà un caractère de la femme vertueuse. Elle est économe, mais ensuite, elle travaille. C'est une travailleuse. Et ça ne l'humilie pas de travailler. Est-ce qu'elle travaille en gémissant, la femme vertueuse? Qu'est-ce que vous lisez? D'une main joyeuse. Quand le cœur est vraiment habité par le Seigneur, eh bien, le cœur dirige les mains, et si le cœur est joyeux, les mains aussi, au travail, sont joyeuses. Elle travaille d'une main joyeuse. Il y a donc bonne humeur dans ce foyer. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Qu'est-ce que ça nous montre, ça? Je voudrais que ce soit vous qui trouviez ces choses. Elle est prévoyante. Elle fait venir même les matières premières, elle les fait venir de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Qu'est-ce que ça nous montre? Elle n'est pas paresseuse, elle est active. Et elle est vigilante. Elle est la première levée. Une femme vertueuse, dans la mesure où sa santé le lui permet, elle est levée tôt. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Qu'est-ce que ça nous montre? C'est une femme organisée. C'est une femme qui aime l'ordre. C'est une femme qui prépare sa journée et qui a autorité sur ses servantes. Puis, elle a de l'initiative. Parce que son mari lui laisse cette initiative. Elle pense à un champ. Mais voyez, elle y pense d'abord. Elle ne part pas comme ça à acheter un champ. Elle pense d'abord. Elle a un projet. Et ce projet mûrit en elle, puis elle l'acquiert. Il n'est pas dit elle acquiert un champ. Elle pense à un champ, puis elle l'acquiert. Vous avez un désir, et puis le Seigneur vous permet de l'acquérir. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Il n'est pas dit que c'est du fruit du travail de son mari, mais de son travail. Une femme vertueuse, c'est une femme qui travaille. Qui a de l'initiative. Qui est organisée. Qui est économe. Et vous avez encore d'autres traits, d'autres qualités. Elle feint de force ses reins. Et elle affermit ses bras. Ça veut dire quoi? Vous pouvez la voir. Qu'est-ce qu'on a quand on parle des reins, qu'est-ce que c'est? Elle ne regarde pas les autres soulever les choses. Elle se courbe. Elle n'a pas peur de se courber pour lever quelque chose même qui peut être lourd. Elle ceint ses reins de force. Voilà ce qu'une femme peut faire. Puis, elle affermit ses bras. Parce qu'elle portera des choses, même si elle a des servantes. Elle est un modèle. Elle sait que ce qu'elle gagne est bon. Il semble qu'on entend le Créateur qui s'arrête à chaque étape de la création et qui regarde ce qu'il fait et il dit que cela était bon. C'est ce contrôle d'une femme qui sait se contrôler et qui s'arrête à un moment donné, puis elle constate que ça est bon. Alors elle continue. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Qu'est-ce que ça vous dit? Si elle est la première levée, elle est la dernière couchée. Vous me direz, non, vous allez un peu fort. Mais c'est pas moi qui vais fort. Et si le Seigneur nous place le portrait de cette femme vertueuse, devant nous ce soir, c'est pour nous montrer ce qu'il peut faire de vous, de toute femme qui se trouve ici, quel que soit son tempérament, il peut vous amener à être cela. Et s'il vous dit que sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit, il peut faire de même pour vous. C'est-à-dire, elle est vigilante, elle veille. Il y a toujours une petite lampe allumée, parce qu'elle est la maîtresse de la maison. Elle est la reine du foyer. Il y a probablement des enfants. Elle se sent responsable pour tout. Alors elle veille. C'est une femme vigilante. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle est humble parce que ce travail était un travail plutôt humble. Mais elle fait ces choses parce qu'elle veut servir. Jusqu'à présent, elle s'est occupée essentiellement des siens, de sa maison. Puis maintenant, à partir du verset 20, qu'est-ce que vous voyez? Elle s'ouvre sur quoi? Sur les besoins des gens. Comment? Vous avez dit que? Elle tend la main aux malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Elle est généreuse. Donc elle tend la main non pas pour mendier, mais pour donner. C'est une femme qui fait les choses de telle manière qu'elle puisse donner. Sa joie, c'est de donner. Sa joie, c'est de servir. Sa joie, c'est de travailler. Sa joie, c'est de tenir en ordre sa maison. Sa joie, c'est que tout soit dans la propreté et que tout soit sous contrôle, comme quelquefois certains aiment à le dire. C'est sous contrôle. Tout est contrôlé. C'est-à-dire que tout va bien. Elle n'est pas dépassée.
Une femme vertueuse, c'est une femme qui ne se laisse pas dépasser. C'est une femme qui est maîtresse d'elle-même. On parle d'une maîtresse de maison. Ben, elle tient tout en main. Elle n'oublie pas le malheureux et elle tend la main à l'indigent. Alors, vous comprenez pourquoi une mère qui est cela peut dire à son fils de s'occuper des malheureux. Parce que le fils se souvient que sa mère faisait cela. Alors, comme sa mère faisait cela et qu'elle l'a enseigné à se souvenir des malheureux, lui aussi aura à cœur d'imiter sa mère. Oui, oui, vraiment. Elle ne craint pas la neige pour sa maison. Parce que vous savez que même à Jérusalem, il neige. Il peut faire très froid à Jérusalem. Mais alors, quels sont... Évidemment, maintenant, il y a d'autres moyens de chauffage. Mais de ce temps-là, eh bien, c'était les vêtements qui étaient le moyen de chauffage. Et les étoffes, les tapis. Alors, elle ne craint pas la neige pour sa maison, donc ça veut dire elle ne craint pas le froid. Il y a un proverbe arabe qui dit que, on me l'a cité l'autre jour en Israël, que Dieu mesure la température, Dieu donne la température selon le nombre de couvertures pour les Arabes. Il a pitié des Arabes et il ne donne pas une température qui dépasse ce que les couvertures peuvent leur donner comme chaleur. Parce que justement, ce qui leur tient chaud, ce sont les vêtements et les tapis, les couvertures. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Alors, son mari, voilà qu'il apparaît ici, il est considéré aux portes. Qu'est-ce que c'est les portes? C'est le gouvernement. Hein. C'est un homme qui est considéré aux portes. C'est le verset, je me presse du coup, verset 23. Son mari est un notable, honorablement connu. Il participe aux délibérations du conseil de la ville. C'est plus simple pour les modernes, n'est-ce pas? Parce que sans ça, les portes, qu'est-ce que c'est? On ne comprend pas. Alors, voilà pourquoi je vous conseille quand même aussi la traduction en français courant, qui peut peut-être vous aider quand c'est une première lecture. Son mari est considéré aux portes. Lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Du verset 24, vous voyez que ses activités sont très variées. Elle fait des chemises. Il est dit ici, elle fabrique des tapis et porte des habits raffinés en lin pourpre. Son mari est un notable connu. Elle confectionne des vêtements, elle les vend. Elle livre des ceintures aux marchands qui passent. Donc vous voyez, elle a tout un petit trafic. La force et la dignité sont sa parure. Qu'est-ce qui est votre parure? La force et la dignité. Une femme forte, une femme digne. Et elle sourit en pensant à l'avenir. Là, il a dit, elle se rit de l'avenir. Je préfère, elle sourit en pensant à l'avenir. Parce que c'est plus normal. On ne se rit pas de l'avenir, elle ne se moque pas de l'avenir. C'est pas ça, il ne faudrait pas prendre... Ce gond-là est faible. Il ne faudrait pas prendre ça comme... On se moque de l'avenir. Parce qu'on est tellement sûr de soi. Elle n'est pas sûre d'elle, elle est sûre de qui? Du Seigneur. Elle se confie dans le Seigneur, c'est ce qu'on va voir plus tard. Et tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle fait, découle de sa foi, comme nous allons le voir, de sa crainte de Dieu. elle ouvre la bouche avec sagesse. Alors maintenant, vous voyez qu'elle n'est pas seulement industrieuse, elle ne travaille pas seulement de ses mains, mais elle a aussi une tête. Elle pense, puis elle parle. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Et les instructions aimables sont sur sa langue. D'où viennent ces instructions? De son cœur. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Je reviens sur ce mot. Elle est vigilante. Elle contrôle tout. Elle ne laisse pas faire. Mais elle dirige. C'est son rôle. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Voilà encore un pain dont on a parlé, le pain dans les proverbes. Là, il est dit qu'elle ne mange pas le pain de la paresse. Verset 28, conséquence de son attitude, de cette vie d'une femme vertueuse, c'est quoi? Ses fils. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. C'est beau. Quand des fils peuvent dire, mais maman est une femme heureuse. Il y a tant de fils qui pensent et qui disent, notre mère, elle est malheureuse. C'est pas ce que Dieu veut. Il voudrait que nos enfants puissent dire, mes parents sont des parents heureux. Mes parents, c'est un foyer uni. On s'aime. Oui, on a... Et ils ont eu aussi leurs difficultés. On a chacun son tempérament. Mais ils se pardonnent. Ils se supportent. J'ai connu un vieux sage dans le canton où je suis né. Je le vois encore expliquant ça à mon père. Je me promenais quand j'étais encore enfant avec mon père. Puis il nous avait arrêtés. Puis il parlait du mariage. Puis il disait, oh le mariage. Mais voyez-vous, c'est comme deux cubes. Bien anglais, chaque cube a ses angles. Hein. Mais voilà, on prend ces deux cubes, puis on les lance dans la coulisse de la vie. Puis alors, ça se cogne, ça se frotte. Mais ça descend, ça descend. Et pour finir, ça fait deux boules. Mais il y a eu des frottements. Hein. Les angles se sont arrondis. Je vois encore ces deux cubes qui devaient descendre dans la coulisse de la vie. Ça se cogne, ça se frotte, mais ça finit, disait-il, par deux boules qui continuent. J'ai reçu l'autre jour une lettre d'un homme qui voulait quitter sa femme il y a peu d'années. Une femme qui a été aussi au camp Mahanaïm une fois. Et puis, il me disait, nous nous apprêtons maintenant à vieillir ensemble. Le divorce a été épargné. Mais, voulez-vous vieillir ensemble? Si vous êtes mariés, nous nous apprêtons à vieillir ensemble. C'est pas simplement vieillir ensemble. C'est vivre ensemble. Et c'est s'aimer, et c'est se pardonner. Ses fils se lèvent et la disent bienheureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Un homme qui peut dire du bien de sa femme, vous en trouvez beaucoup ? Qu'est-ce qu'ils font les hommes la plupart du temps quand ils parlent à une autre femme? Ils se plaignent. Ils se plaignent de leur femme. Ce sont des pauvres malheureux qui ont besoin de se faire consoler. C'est vrai ou c'est pas vrai? La plupart, et c'est ça le danger des hommes. Les hommes se plaignent toujours. Ils voudraient toujours avoir des consolations d'autres femmes. Puis les femmes, elles se laissent prendre. Est-ce que vous avez reçu le ministère de consolation ? Moi, j'ai reçu le ministère de consoler les hommes. Voyez, on s'arrête. Je fais exprès. Je dis pas trop. Méditez. Méditez. Essayez de vous pénétrer ces choses. Son mari se lève. Elle lui donne des louanges. Mais vous voyez, c'est pas une femme qui se l'est laissée aller. Je crois que dans le malheur conjugal, bien souvent, il y a quand même des responsabilités. Et même si vous êtes dans une situation difficile aujourd'hui, mais le Seigneur, je dis, n'a pas dit son dernier mot, mais il y a peut-être des leçons que nous devons apprendre. Quand on est fiancé ou qu'on pense justement que cette fille ou ce jeune homme nous appartiendront, eh bien, on se tient propre, on respecte les règles d'hygiène, on s'habille d'une façon convenable, on essaye de plaire. C'est vrai ou c'est faux? On essaye de plaire. Mais une fois marié, on est marié, c'est ma femme. Pourquoi est-ce que je me raserai tous les jours? C'est ma femme. Pourquoi est-ce que je prendrais si souvent un bain? C'est ma femme. Puis vous pouvez y aller encore. On devient, au fond, impossible. Mais c'est vrai aussi des femmes. Maintenant qu'elles sont notre femme, qu'elle est notre femme, pourquoi est-ce que je chercherai encore tellement à plaire? C'est mon mari. Mais gardez-le, votre mari. Et soyez une femme attrayante pour lui. Et surtout quand vous aurez des enfants, que l'enfant, tout en ayant sa place, ne prenne pas toute la place. De telle sorte que le mari se sent mis de côté. Ce sont des choses auxquelles il faut songer, surtout quand on est chrétien. Verset 29. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi tu les surpasses toutes. Alors vous pourriez prendre dans la Bible toutes les filles de la Bible qui peuvent être pour nous des exemples. Et combien y a-t-il de femmes dans la Bible qui sont appelées vertueuses? Une. C'est Ruth. C'est le témoignage que Boaz rend à cette étrangère. Et en finale, oui, vous pouvez prendre toutes des femmes qui étaient belles. C'est très frappant. Hein? La beauté, elle est dans la Bible. Belle de taille et de visage, de figure, belle de taille et de figure. Qui? Rebecca. Qui encore? Rachel, Sarah, Rebecca, Rachel. Toutes ces femmes étaient belles. Même belles à un âge avancé. Si on voit l'histoire d'Abraham, Sarah était encore désirable à un âge avancé. Mais qu'apprenons-nous sur cette beauté? Il y a la beauté d'Esther, il y a la beauté d'Abigaïl, il y a la beauté de... Vous pouvez les passer tout en revue, ces femmes. Michal aussi était belle. Mais la beauté est vanité. La grâce est trompeuse. Et la beauté est vaine. Si vous épousez quelqu'un seulement pour sa beauté, que ce soit un homme ou une femme, ça ne dure pas longtemps, ça ne dure pas toujours. Tous se fanent, nous vieillissons. Alors, est-ce que je l'aimerai encore quand cette personne aura pris de l'âge? La femme qui craint l'Éternel. Voilà ce qu'il nous faut. La femme qui craint l'Éternel. C'est le résumé de tout. La femme qui craint l'Éternel. On a vu d'autres femmes, on a vu la femme querelleuse, on a vu l'étrangère, on a vu la prostituée. Et maintenant, on voit la femme vertueuse, c'est celle qui craint l'Éternel. Maintenant, vous savez ce que c'est que la crainte de l'Éternel? C'est la peur de lui déplaire. C'est elle qui sera louée, récompensée-la du fruit de son travail, et qu'aux portes ses œuvres la louent. C'est ce qui va arriver pour l'Église de Christ. Il y a une récompense aussi pour l'Église, la femme de l'agneau. C'est frappant de voir le livre des Proverbes se termine par le témoignage au sujet d'une femme. Et dans le livre de l'Apocalypse, la Bible se termine aussi par le témoignage d'une femme. La femme de l'agneau. La femme qui s'est préparée pour le jour des noces. Eh bien, mes amis, que le Seigneur donne lui-même sa conclusion à ce livre des Proverbes. Et que vous puissiez vous souvenir que le Saint-Esprit peut parler aussi bien par une femme que par un homme. Et il me semble que c'est là la grande leçon de la fin du livre des Proverbes. Ce n'est pas Salomon qui est employé pour nous donner la conclusion, c'est une femme. Et qui a-t-on vu dans cette femme, on doit oser le dire, cette femme vertueuse? Vous avez pensé à une autre femme que Rebecca, à une autre femme que Rachel, à une autre femme même Cain, à Marie. Et je suis souvent triste de voir que Marie, on en parle pour ainsi dire jamais, dans certains milieux. C'est pas parce que l'Église romaine a exagéré au sujet de Marie qu'on doit méconnaître la mère bénie de notre Seigneur, qui a été choisie entre toutes les femmes. Entre toutes les femmes, alors. Une femme vertueuse, qui la trouvera? Qui est-ce qui a trouvé une fois une femme vertueuse? Dieu, qui envoie son ange, où? À Nazareth, vers qui? Vers une jeune fille. Je me souviens du frémissement des gens au stade olympique à Montréal, quand j'ai demandé à ce public, un dimanche matin, cet immense public, à qui Dieu pourrait-il s'adresser? À quelle jeune fille de Montréal pourrait-il envoyer son ange? Trouvant vraiment une fille vierge pour accomplir ses desseins aujourd'hui. Dans ce public de baptisés, une femme vertueuse qui la trouvera. Une femme qui s'est gardée pour le Seigneur et pour le mariage. Une femme qui ne s'est pas laissée essayer, comme nous a dit le moine. C'est atroce quand on y pense. J'entends encore un jeune chrétien noir, enfin, il avait confessé le Seigneur, qui disait, mais une femme, ça s'essaye, c'est comme une autre. Vous rendez-vous compte à quoi on en arrive? La femme objet? Non, ça ne s'essaye pas. Je demande à Dieu qu'il vous reste quelque chose et que vous retrouviez un idéal. Dieu peut vous redonner votre virginité. Dieu peut vous redonner cette pureté. Dieu notre Père, nous éprouvons l'intense besoin de nous taire et de te laisser nous parler pour clore cette rencontre. Tu nous as réunis autour de ta parole. Tu nous as fait entendre des vérités que nous connaissions peut-être déjà, mais qui se sont imposées maintenant à nos cœurs. Que ce soit toi qui termine dans ton amour et dans ta grâce. En Jésus-Christ. Amen. Celui qui baptise du Saint-Esprit. Verset 23. Chapitre 2e, le don de Dieu. Verset 6. Comment ? Qu'est-ce que j'ai dit? Non. Le don de Dieu. Verset 6 du chapitre 2, qui est mis en regard de Jean 4, verset 10. Chapitre 3, le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. Chapitre 4. La lumière du monde. Je suis la lumière du monde. C'est le verset 18 du chapitre 4 comparé à Jean 8, verset 12. Chapitre 5, on avait mis le bon berger. Vous pouvez peut-être trouver autre chose, mais c'est Jean 10. Chapitre 6, le seul maître. Chapitre 7, l'hôte divin. Chapitre 8, le Christ, notre sagesse. Chapitre 9, le Saint. Chapitre 10, le Juste. Chapitre 11, l'Homme bon. Chapitre 12, l'Homme de bien. Chapitre 13, l'ambassadeur fidèle. Chapitre 14, le témoin fidèle. Chapitre 15, l'homme intelligent. Chapitre 16, le roi. Chapitre 17, le frère né pour la détresse. Chapitre 18. L'ami plus attaché qu'un frère, l'ami. Chapitre 19. Le pauvre. Au chapitre 20, j'avais marqué l'enfant, le jeune garçon, où finalement on avait dit qu'on aurait pu mettre l'enfant roi, hein, parce qu'il est parlé aussi du roi, mais l'enfant roi. Chapitre 21, l'homme diligent. Chapitre 22, l'homme avisé. Chapitre 23, le rédempteur. Chapitre 24, le messager fidèle. Non, qu'est-ce que j'ai dit? 24, que je suis fatigué. 23, c'est le rédempteur. Hein. 24, l'homme sage. 25, le messager fidèle. 26, le prochain. 27, le voisin proche. 28. Donc 26, le prochain. 27, le voisin proche. Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné, oui. Vous retrouverez tout ça. 28. L'homme fidèle. 29. L'homme intègre. 30. Le fils. Et 31, l'époux. Est-ce que vous avez des questions?
Dans le chapitre 31,
mais c'est une étoffe rouge. On peut dire aussi d'écarlate. Sa maison est vêtue d'écarlate. C'est une étoffe de couleur rouge. Et on voit cette femme, elle est vraiment un modèle pour ses serviteurs. Ses serviteurs, ses servantes ne peuvent pas dire qu'elle ne met pas la main à la pâte. Elle est un exemple pour eux.